Je peux te dire une chose, ton idée de combiner la fête des mères et la fête des pères a fait des petits.
Ah oui, hein?
Oui, beaucoup de courriels des auditeurs, des auditrices qui trouvent que c'est une maudite bonne idée.
Surtout que c'est une fête inventée, on va se le dire, c'est juste pour vendre des fleurs.
Ben
des
oui,
cossins.
Ben oui. Bon, on a eu des résultats pour SNC-Lavalin.
Oui, évidemment, SNC, Paul, a quand même perdu 58 % de sa valeur depuis un an, 57 % depuis le début de l'année. Et puis là, on dit, bon... On s'améliore, mais on a réduit de 2,4 milliards la dette. Comment? Ben, on a vendu les droits provenant de l'autoroute 407. Donc, tu vois que il y a une liquidation d'actifs qui s'est faite pour sauver les liquidités. On dit aussi qu'on a des nouveaux contrats. On dit qu'on va réaliser des économies de coûts. Donc, SNC, Paul, depuis quelque temps, paye fortement les dépassements des dernières années. Et je pense que le premier investisseur qui regarde ça de très, très près... C'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui commence à dire récemment « Hey, ça va faire ».
Mais ils font-tu de l'argent ou ils en font pas?
Ils font de l'argent, mais tu sais, c'est dangereux parce que c'est une compagnie basée sur la réputation. Donc, ils font de l'argent, ils ont été obligés de se restructurer. C'est sûr qu'ils ont perdu des contrats, tu sais, des contrats potentiels. Et là, écoute, l'action a perdu 60%, là. 60%, c'est épouvantable, tu sais. Donc, au niveau de la reconstruction, faut couper d'un coup. On fait de l'argent, mais est-ce qu'on va être capable de revenir au niveau où on était avant? Ça, c'est la question.
Qui va arrêter la croissance de Facebook?
Hey, tu sais que je t'avais dit l'année passée, pendant qu'il y avait le scandale, je te dis, dans 6 mois, on va avoir oublié ça, tout le monde va continuer à utiliser Facebook. Ben, comme de fait, l'action a pris de la valeur ce matin avant l'entrée en bourse. On est rendu à 1,6 milliard d'utilisateurs quotidiens. Évidemment, moi, la statistique qui m'intéresse le plus, ce sont les utilisateurs nord-américains, c'est-à-dire les Canadiens et les Américains, parce que c'est là que ça stagne. T'sais, on ne monte pas beaucoup. Et quand on regarde des revenus de 17,6 milliards pour un trimestre, 17,6 milliards, là, c'est pas une invention, là, c'est écrit. Écoute, on voit très bien que c'est majoritairement le Canada et les États-Unis qui fournissent ça. Parce que même si 11,6% des utilisateurs viennent de l'Amérique du Nord, 48%, la moitié des revenus, viennent de cette région. Donc, c'est nous qui sommes payants pour Facebook, bien plus qu'ailleurs à travers le monde. Tu sais, par exemple, en Europe, par trimestre, un utilisateur apporte 10$, puis au Canada et aux États-Unis, c'est 35$. Et ce que ça nous envoie comme message, c'est que si on voulait avoir Facebook complètement privé et qu'il n'y ait pas de contrôle et de vente de nos données, il faudrait qu'on paye l'équivalent d'un abonnement à Netflix chaque mois. Parce que ça remplace les revenus que Facebook perdrait.
Est-ce que les gens paieraient 12, 13 $ mettons 15 $ par mois pour aller sur Facebook, tu penses?
Non, parce que la force de Facebook, c'est le réseau. Si tes amis arrêtent d'y aller en massivement, ben toi, t'as plus d'avantage à y aller. L'avantage, c'est que tes amis soient abonnés. Donc, la majorité du monde l'utilise parce que c'est gratuit. Mais moi, personnellement, je ne paierais pas pour ça, Paul.
OK. Maintenant, ça, c'est une belle question, c'est-à-dire le devoir de léguer à la deuxième génération.
Hé, hey, là, les gens disent, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai parlé de liberté financière récemment sur les réseaux sociaux et les gens me disent, ben moi, j'ai des enfants, c'est ma richesse. OK? Puis dans la vie, il faut bien vivre avant de mourir. Je suis d'accord. Mais là, il y a une affaire qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on a un devoir de patrimoine. Et pourquoi je parle de deuxième génération suivante? C'est qu'on parle souvent de léguer à nos enfants. Mais quand on va mourir... C'est à nos petits-enfants qu'il faut léguer. Parce que nos enfants, il faut les avoir aidés avant. Si je meurs à 80 et que mon gars a 50, il est déjà établi dans la vie, je peux pas l'aider. Donc, faut que je l'aide quand il est jeune. Et là, Paul, je te ramène la notion de REEE encore une fois parce que je me suis dit, quel est le meilleur moyen d'aider mes enfants? C'est facile. Je remplis leur fonds d'études et le capital, je leur laisse pour leur mise de fonds de maison. Donc, avec l'outil gouvernemental subventionné, je leur laisse les subventions imposables à faible taux parce qu'ils ont ça dans leurs revenus lorsqu'ils gagnent rien. Et le capital, je leur lègue à 25-30 ans pour qu'ils achètent leur maison. Et pendant ce temps-là, excuse-moi, les petits-enfants viennent au monde et ces petits-enfants-là ont besoin de, évidemment, d'investissement dans le REE ou eux aussi. Et donc, les grands-parents, leur responsabilité, c'est ça. Et l'assurance-vie devrait être léguée aussi en partie aux petits-enfants. Donc, on parle souvent de léguer à la prochaine génération, mais c'est l'autre d'après aussi qu'il faut penser. Il faut commencer à bâtir un patrimoine familial pour tout le monde après nous.
Dans le fond, ce que tu dis, là, puis là, ça va selon les revenus des gens, là. Ouais. On devrait aider nos enfants financièrement quand ils sont jeunes, quand ils commencent dans la vie, parce que là, bon, maison, ils ont des enfants, puis un paquet de
quand
dépenses.
Ils en ont besoin.
Quand ils en ont besoin, pas attendre le testament puis l'héritage.
C'est ça, puis pas de leur donner tout non plus, parce que nous aussi, on va avoir besoin de ressources.
Ben, c'est
mais
sûr.
Si je leur donne de l'aide pour payer l'école privée des enfants, le hockey du plus jeune, que je leur cède un peu pour le patrimoine pour leur mise de fonds de maison, que je les mets avec moi dans un investissement d'immeuble à revenus, tout ça génère du patrimoine pour la génération suivante. Parce que ce qu'on oublie, le gros défaut des boomers, Paul, je vais te le dire, c'est d'avoir dit « je me suis fait tout seul, mes enfants se font tout seuls ». Ouais, mais le problème, c'est que nous, on est dans une société où il y a de moins en moins de ressources, puis il y a de plus en plus de monde. Et plus ça va aller, plus il faudra penser à aider la génération suivante. Alors, la question qu'on doit se poser comme individu, est-ce que je vis égoïstement pour finir mes jours dans la consommation ou je travaille très fort pour commencer à être la première génération à bâtir un patrimoine et aider mes descendants à avoir non seulement une belle vie, mais une vie avec moins de stress financier et avoir plus d'opportunités pour mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Pas leur léguer 1 million, mais tu sais, leur donner la petite tape sur l'épaule qu'ils auraient besoin à 25 ans quand toi, t'en as pas bénéficié, ça va tellement changer leur vie. Alors, grands-parents, au lieu d'acheter un voyage à Walt Disney à vos petits-enfants, pourquoi pas une mise de fonds sur un régime enregistré d'épargne-études qui donne droit à une subvention de 30%? Et voilà. Et
Paul, hein?
On pourrait économiser de l'argent en fusionnant la fête des pères et la fête des mères.
Ben oui, ça fait une dépense de moins. Mais je te jure, là, j'ai, tu sais, des fois, tu lances une idée puis il y a des gens qui trouvent que c'est pas pire du tout.
Ben surtout que c'est pas une fête culturelle, c'est une fête commerciale inventée. On va au moins les fusionner ensemble.
Hein, fête des parents. Fini la fête des pères, fini la fête des mères.
La fête des parents.
Vive la fête des parents.
Pis si les parents sont divorcés, t'iras déjeuner avec ta mère et dîner avec ton père.
Voilà, c'est réglé. 7h21, salut, bye.